Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
À la une de l'actualité, tout d'abord l'Inde et le Bangladesh voisins qui ont commencé à être balayés par un très violent cyclone baptisé Amphan. Il a déjà atterri à Calcutta où on déplore une douzaine de victimes et des dégâts matériels. 3 millions de personnes ont été mises à l'abri. L'Allemagne interdit les contrats de sous-traitance dans ses abattoirs après une série de contaminations au coronavirus ces dernières semaines. Ainsi, le recours massif aux travailleurs détachés d'Europe de l'Est a été réduit. Et puis l'élection présidentielle aux États-Unis qui suscite de plus en plus de tensions alors que la lutte contre le coronavirus impose des mesures difficilement compatibles avec un scrutin normal. Mais le vote par correspondance a le don d'irriter Donald Trump, vous l'entendrez.
Les journaux.
Le journal.
En français facile.
En français facile.
Une partie de l'Inde et du Bangladesh est actuellement balayée par un très violent cyclone. Appelé Amphan, il a atteint il y a quelques heures la côte indienne où des dégâts et une douzaine de premières victimes sont à déplorer. C'est l'une des tempêtes tropicales les plus puissantes des dernières décennies avec des rafales atteignant les 175 km/h. Amphan est arrivé par l'état du Bengale occidental avant de frapper sa capitale, la mégapole Calcutta. Correspondance Sébastien Farcy.
La nuit vient de tomber sur Calcutta et la tempête entre en ville avec une puissance terrifiante. Les rafales à plus de 110 km/h emportent la pluie à l'horizontale. Les cocotiers sont fouettés comme de simples fougères et les 15 millions d'habitants de cette mégalopole sont plongés dans le noir. L'électricité est coupée dans une grande partie de la ville et à certains endroits, les fils électriques sont balayés par les vents et créent de violentes et dangereuses étincelles. 500 000 personnes ont été évacuées dans cet état du Bengale, principalement près des côtes inondables de ce delta du Gange où le cyclone soufflait à 140 km/h en moyenne. Les autorités veulent également éviter que ces évacuations entraînent une transmission du coronavirus et affirment que les centres d'accueil seront occupés à seulement 50% de leur capacité, ce qui est un vrai défi considérant le nombre de personnes à loger. Le cyclone Amphan va ensuite continuer sa route vers le nord-est et passer au Bangladesh pendant la nuit. Sa puissance devrait alors décroître pour souffler en son cœur à 110 km/h. Sébastien Farcy, New Delhi, RFI.
Et puis nous en revenons maintenant à l'actualité du coronavirus dont les derniers bilans viennent d'être publiés. La pandémie dans le monde a fait 325 232 victimes exactement. Et comme dans d'autres pays européens, l'Allemagne est confrontée depuis quelques semaines à une recrudescence d'infections au coronavirus dans de grands abattoirs industriels. Hormis les mesures sanitaires imposées dans les entreprises comme dans les environs, ces différents cas ont relancé les débats sur les conditions de travail dans ce secteur. Le Conseil des ministres allemand a adopté ce mercredi matin des mesures restrictives interdisant à l'avenir la sous-traitance dans cette branche. Explication Pascal Thibault.
Sans la pandémie de coronavirus, les nouvelles restrictions n'auraient sans doute pas été adoptées. Si les sociodémocrates ont souvent critiqué les conditions de travail dans les abattoirs, des règles plus contraignantes se heurtaient aux réticences des conservateurs et aux puissants lobbies de l'industrie agroalimentaire. Les foyers de contamination qui se sont déclarés dans plusieurs entreprises à travers le pays ont accéléré les choses. Berlin va interdire les contrats de sous-traitance pour les salariés de ces abattoirs. Cette pratique autorisait des conditions de travail plus précaires et un moindre respect des règles d'hygiène. Les conditions de beaucoup d'entreprises recours à de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est détachée en Allemagne. Le ministre du Travail, Hubertus Heil. Il n'est pas acceptable que les règles sanitaires et le droit du travail ne soient pas respectés par certains qui emploient des travailleurs étrangers. Cela conduit dans les zones concernées par des foyers de contamination à un reconfinement. La dignité et la santé des salariés, d'où qu'ils viennent, ne doivent pas être ignorées dans notre pays. À partir du 1er janvier prochain, seuls des salariés de l'entreprise finale pourront travailler dans les abattoirs. Les industriels concernés dénoncent des mesures excessives et s'estiment victimes d'une discrimination, d'autres branches recourant elles aussi à la sous-traitance. Les nouvelles mesures pour les abattoirs pourraient conduire, pour le consommateur, à une augmentation du prix de la viande. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et puis je vous rappelle qu'en France également, 54 salariés d'un abattoir du Loiret et 69 employés d'un autre abattoir dans les Côtes d'Armor avaient également été testés positifs au Covid-19 ces dernières semaines.
Le journal en français facile.
Aux États-Unis, la tenue des primaires et des autres élections pose un défi aux États qui tentent de trouver des solutions alternatives dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Certains ont choisi le vote par courrier, mais l'option est dénoncée par Donald Trump qui parle d'une méthode peu fiable. Le président a même menacé aujourd'hui deux de ses États, le Michigan et le Nevada, de les priver tout simplement de fonds fédéraux. Les précisions sur place de notre correspondante Lubna.
Dans une série de messages matinaux sur Twitter, Donald Trump s'en prend à nouveau au vote par courrier. Le Michigan a envoyé des bulletins de vote aux 7,5 millions d'habitants, écrit le président avant d'ajouter « Cela a été fait illégalement par un secrétaire d'État voyou ». Dans les faits, pour le moment, le Michigan a juste envoyé des formulaires pour ceux qui souhaitent recevoir les bulletins de vote par courrier, demande qui devrait être ensuite vérifiée et authentifiée avant l'envoi des bulletins de vote. Une méthode adoptée par plusieurs États pour la tenue des primaires démocrates et républicaines, mais aussi envisagée pour la tenue de l'élection présidentielle de novembre. Une façon d'éviter des bureaux de vote bondés vu la crise sanitaire liée au coronavirus. Les électeurs qui souhaitent se déplacer pourront toujours le faire. Mais Donald Trump, depuis plusieurs semaines, menace à chaque fois qu'un État annonce faire le choix du vote par courrier, le président et ses alliés républicains estiment sans avancer de preuves que cette méthode peut facilement donner lieu à des fraudes. Pourtant, Donald Trump a lui-même voté par courrier lors de la primaire en Floride en mars dernier. Il ne critique pas non plus les États qui utilisent cette méthode depuis longtemps et où les républicains obtiennent à chaque fois de bons résultats. Dans ses messages ce matin, il menace même de suspendre les aides fédérales au Michigan et au Nevada s'ils maintiennent l'option de vote par courrier. Naki, New York, RFI.
Donald Trump qui ne décolère pas avec la Chine également. L'incompétence de Pékin, selon lui, a provoqué une tuerie de masse mondiale. Je cite, bien évidemment, un tweet rageur du président qui affirme depuis longtemps, vous le savez, que le bilan du Covid-19 aurait pu être évité, si ce n'est diminué, si la Chine avait agi de façon responsable dès l'apparition du virus à Wuhan. Donald Trump qui a affublé son homologue Xi Jinping de qualificatifs de cinglé et d'abruti et indique qu'il ne souhaitait plus lui adresser la parole pour l'instant. L'OMS, qui a fait état mercredi du plus grand nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde en une seule journée, 106 000 cas exactement. Près des deux tiers de ces cas ont été déclarés aux États-Unis, en Russie, au Brésil et en Arabie Saoudite. Au Brésil, où la progression de la maladie accélère, le gouvernement a recommandé mercredi l'usage de la chloroquine, une substance controversée également prônée par le président américain Donald Trump. Le bilan quotidien au Brésil, des victimes mortelles est de 1179. Et puis au Venezuela, le principal service de télévision par satellite, Direct TV, a été suspendu ce mardi. Son propriétaire, l'entreprise américaine AT&T, a décidé de couper le service sous la pression conjuguée des sanctions américaines et du gouvernement vénézuélien. Pour les Vénézuéliens, dont un tiers avait l'accès à Direct TV, c'est un coup dur, surtout en pleine pandémie, alors que la télévision représentait l'un des derniers luxes qu'ils pouvaient s'offrir. Benjamin Delisle.
Les concerts de casseroles se sont fait entendre partout au Venezuela ce mardi soir avec une rare intensité. De quoi mesurer l'ampleur du mécontentement après la fermeture de DirecTV selon Hilda, en particulier dans les quartiers populaires comme le sien où les antennes de télévision sont légion.
Imaginez-vous une quarantaine sans télévision, sans accès à l'information. Et puis les enfants qui sont stressés, qui pleurent, n'ont même plus accès à leur programme. Car ce qu'il reste avec la télévision nationale, ça ne parle que de la politique du gouvernement. Ce n'est pas pour les enfants.
Malgré les sanctions de Washington, AT&T avait toujours le droit d'assurer son service au Venezuela. La seule restriction était de supprimer de sa grille les chaînes pro-gouvernementales Globovision et PDVSA TV, elles-mêmes visées par le département d'État américain. Et c'est justement ce qui a posé problème, selon Alberto Ravel, l'ancien PDG de Globovision, aujourd'hui exilé.
La dictature a prévenu que si le signal de Globovision et de PDVSA TV était coupé, DirecTV serait interdit au Venezuela et ses directeurs arrêtés. C'est pour ça qu'AT&T a dû se retirer, parce qu'une entreprise nord-américaine ne peut pas négocier avec le régime.
À l'inverse, le gouvernement assure être dans son bon droit et accuse les États-Unis de vouloir censurer les chaînes qui ne lui sont pas favorables. En attendant, ce sont une fois de plus les Vénézuéliens qui paient le prix fort.
Benjamin Delisle au Venezuela, c'est la fin de ce journal. Il est 22h10 à Paris. L'info revient dans 50 minutes sur RFI.
Hé, qu'est-ce que tu regardes ?